Bleu Loire-Océan, à votre service. Cathy Kerzéro, Julie Fior.
Les chiffres sont éloquents. On vous les a déjà donnés. En France, 2 mariages sur 3 s'achèvent par un divorce en région parisienne, 1 sur 4 en Provence. Et au niveau des Pays de la Loire, en gros, c'est 1 enfant sur 10 qui vit dans une famille recomposée. Alors, la question ce matin, c'est comment se séparer? J'ai presque envie de dire comment réussir sa séparation tout en préservant le plus possible les enfants.
Alors, pour répondre à cette question, notre spécialiste ici dans les studios de France Bleu Loire-Océan, c'est Océane Gourzeau, avocate à Nantes en droit de la famille, au sein du cabinet Majoli. Alors, si vous êtes en train de vous séparer, vous êtes déjà séparé, divorcé, mais vous avez encore des questions sur vos droits, la visite aussi des enfants, le droit de garde, la pension, 02 40 73 6000.
Océane Gourzeau, bonjour.
Bonjour Cathy, bonjour Julie.
Et merci à vous d'être dans le studio de France Bleu Loire-Océan. Juste, vous qui nous écoutez, parce qu'on sait que vous avez des questions, voilà, et souvent vous appelez un peu au dernier moment.
Un peu trop tard, quoi.
Donc voilà, si vous avez un souci sur la garde, voilà, la, comme vous l'avez dit, la pension, les appels téléphoniques, enfin, n'importe quel petit souci en lien avec votre séparation, votre divorce, voilà, vos questions au 02 40 73.
Mais ça peut être aussi, je pense, à des peurs, par exemple, mince, j'ose pas dire ceci, dire cela, ou demander ceci, demander cela, parce que j'ai peur des conséquences. Ça aussi, ça peut peut-être être un moyen de se rassurer auprès de notre spécialiste.
Voilà. Ou même, vous êtes parent ou même grand-parent, vous pouvez aussi poser vos questions. On va rentrer dans le vif du sujet avec une première question. On l'a dit, alors, soit on est divorcé, soit là, on est en phase de séparation. On est en train de se séparer. Évidemment, on a envie que ça se passe bien pour les enfants, qu'ils soient préservés. On arrive encore à communiquer. Qu'est-ce que vous conseillez, vous, Océane Gourzeau?
Alors, mon premier conseil, c'est vraiment de maintenir la communication et puis d'aller se renseigner et d'aller voir un avocat ou un médiateur pour maintenir ce dialogue. On a la possibilité, quand on se sépare, d'organiser les choses dans le cadre d'une convention parentale. La convention parentale, ça va permettre de tout mettre au clair, de pouvoir discuter et d'organiser sa séparation et la vie des enfants, en se mettant d'accord sur l'endroit où l'enfant va vivre, la manière dont l'autre va le recevoir, selon quelle cadence, parler de la pension alimentaire, tous ces sujets qu'il va falloir mettre sur la table pour préserver l'avenir et préserver les enfants.
D'accord. Quand on a préparé cette émission, moi j'ai même découvert que dans cette convention parentale, on pouvait inscrire noir sur blanc même les histoires d'appels téléphoniques, parce que souvent ça, y a des trucs qui grincent. Elle appelle tard le soir, ou il veut pas appeler tel jour. Là, on peut même inscrire noir sur blanc, il ou elle appellera les enfants tel jour ou pas. Alors même si après il peut y avoir un peu plus de souplesse, mais là ça permet en fait de figer un cadre.
Complètement. L'avantage de la convention parentale, on fait de l'amiable et on fait du sur-mesure. Donc on va pouvoir s'adapter précisément aux besoins des familles en discutant avec eux, en les écoutant aussi échanger, et on va pouvoir prévoir ces petits détails qui, finalement, le diable se cache dans les détails, et c'est ce qui pourrait générer plus tard du conflit parce que le parent appelle trop tard ou systématiquement au mauvais moment parce que l'organisation de la famille a changé. Et donc, en prévoyant tout dans cette convention, en tout cas le plus possible, on va pouvoir apaiser les conflits.
D'accord. Comment ça marche, cette convention? On la fait où? Avec qui?
Alors, il y a plusieurs possibilités. On peut déjà, les parents peuvent se mettre autour d'une table et rédiger cette convention. Ce que je peux conseiller aussi, c'est soit de le faire avec un médiateur ou avec l'aide d'avocats qui vont réunir en fait les parents autour d'une table dans le cadre de rendez-vous à 4. Et ça va permettre vraiment de balayer tous les besoins de la famille.
Mais comment on pourrait rassurer? Parce que par exemple, dire qu'on va le faire avec un avocat, tout de suite, ça paraît, important. Et donc, du coup, on se dit, ah mince, est-ce que c'est pas le moment où on peut se sentir lésé parce que, justement, il y a avocat en jeu, donc on va vouloir grappiller des droits supplémentaires ou...
Alors, je suis bien d'accord avec vous. Justement, c'est, comme vous le dites, c'est quelque chose d'important parce qu'on est en train de parler de la famille et on est en train de parler parfois des 10 ou 15 prochaines années. Les avocats ont changé, les avocats font maintenant énormément d'amiables et j'essaye de lutter pour dire que prendre un avocat, ce n'est pas faire la guerre. Prendre un avocat, c'est aussi, au contraire, pouvoir discuter, avoir quelqu'un qui va être à ses côtés pour pouvoir défendre ses intérêts, mais surtout défendre les intérêts des enfants. N'oublions pas que dans le droit de la famille, ce qui compte, ce qui est central, c'est l'intérêt des enfants. C'est ce qu'auront à cœur de soutenir les avocats, mais aussi le juge aux affaires familiales, qui ne tranche que dans l'intérêt de l'enfant et pas du tout dans celui des parents.
D'accord. Et on peut d'ailleurs préciser, Océane Gourceau, vous êtes avocate nantaise, mais vous êtes également médiatrice. C'est ainsi que vous vous précisez.
Exactement. Ouais, je suis médiatrice et je fais partie de l'association des avocats de la paix. Donc, je suis formée au mode amiable et j'essaye de les mettre en avant parce que je sais que c'est dans l'intérêt des familles d'avoir des parents apaisés. Ça permet d'avoir des enfants qui vont bien.
Et puis une précision qui, je pense, a du sens, c'est la question du délai. Parce que c'est-à-dire que quand on va rédiger cette convention parentale lorsqu'on est en train de se séparer, bon, ça veut dire qu'on va clarifier un cadre pour les prochaines années pour les enfants. Mais si on fait pas ça, si on attend la procédure habituelle, ça va mettre du temps.
Alors oui, on a cette difficulté. Les tribunaux sont très engorgés. Malgré le travail considérable que peuvent faire les magistrats et les greffiers, on est dans une situation qui est quand même très sinistrée. Pour vous donner un exemple, à Nantes, il faut compter entre 12 et 18 mois pour réussir à avoir un juge aux affaires familiales. Donc effectivement, mieux vaut anticiper au moment de la séparation par le biais de cette convention parentale. Alors, petite parenthèse, il faut bien penser à faire homologuer cette convention parentale par un juge ou à la faire rédiger par un avocat pour qu'elle ait valeur de jugement. Et donc qu'elle puisse s'appliquer et être appliquée d'office si jamais il y a une difficulté, notamment sur le paiement de la pension.
Mais cette convention parentale, on n'est pas obligé d'être marié pour la rédiger.
Complètement. En fait, la convention parentale, elle va vraiment s'appliquer aux personnes qui se séparent mais qui ne sont pas mariées. Dans le cadre des couples mariés, on est sur le divorce qui peut être soit judiciaire, soit une convention de divorce par acte d'avocat, dont une partie traitera des questions des enfants et donc sera une sorte de convention parentale à l'intérieur de la convention de divorce.
À votre service, les spécialistes. La spécialiste, c'est Océane Gourceau, avocate nantaise, spécialiste du droit de la famille, avocate au sein du cabinet Majoli à Nantes. La question ce matin, comment, je mets toujours des guillemets, réussir sa séparation en préservant les enfants. Toutes vos questions au 02 73 6000.
0240, 73 6000. Sinon, il va vous manquer des chiffres. On accueille tout de suite Marianne qui souhaiterait poser une question à notre spécialiste. Bonjour Marianne.
Bonjour Marianne.
Bonjour à toute l'équipe.
On vous écoute Marianne, allez-y.
Alors, j'ai eu un jugement de divorce l'année dernière qui a fixé le montant d'une pension alimentaire. Suite à la déclaration d'impôt qui vient de paraître, je me rends compte que mon ex-conjoint n'a pas déclaré exactement le bon montant et du coup que la pension alimentaire aurait pu être plus élevée. Je voulais savoir s'il était possible de revoir a posteriori les montants de la pension alimentaire.
Oui, bonjour Marianne. Alors effectivement, il est toujours possible de revoir les montants de la pension alimentaire, que ce soit à la hausse ou à la baisse, à partir du moment où il y a eu un changement de situation. À Nantes, la première étape pour pouvoir modifier une pension alimentaire, ça va être de tenter une médiation préalable, donc d'aller voir un médiateur pour essayer de se mettre d'accord sur le changement de la pension. Si vous n'arrivez pas, par le biais de la médiation, à trouver un accord, vous avez la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales, soit seul, soit avec l'aide d'un avocat, pour pouvoir faire modifier cette pension. Là, si votre ex-conjoint n'avait pas déclaré tous ses revenus, vous allez pouvoir en justifier auprès du juge pour qu'il puisse faire une nouvelle appréciation de la pension alimentaire.
Mais comment Marianne, elle peut justifier des revenus de son ex-conjoint alors qu'elle ne le peut pas? Comment
alors,
elle peut faire?
Il y a deux situations possibles. À partir du moment où vous assignez ou vous déposez une requête, l'autre partie va avoir l'obligation de justifier de ses revenus et de ses charges. Il y a aussi la possibilité, parce que ça arrive que l'autre personne ne se présente pas, vous pouvez demander au juge de se faire communiquer par le biais du service des impôts les revenus de votre ex-conjoint.
D'accord, donc ça c'est dans le cas vraiment où il refuse en fait
Où il refuse ou simplement parce qu'il ne se présente pas. Mmh. J'ai régulièrement le cas des parties qui ne se présentent pas à l'audience, donc bien entendu, on n'a pas la possibilité de connaître leurs revenus, donc c'est très simple à l'heure actuelle pour le juge de se faire communiquer ces éléments, et d'ailleurs très rapidement, il les a sous une semaine.
D'accord, par contre j'imagine que dans le cas de Marianne, ça peut prendre un petit peu de temps, non, avant de revoir cette pension ?
Alors complètement, c'est exactement les délais que je vous indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est à l'heure actuelle sur un 16-18 mois pour pouvoir déposer, en tout cas rencontrer le juge. On dépose sa demande et on rencontre le juge sous un délai qui est effectivement extrêmement long. Si la médiation peut fonctionner,
c'est plus rapide,
elle est préférable, ça sera beaucoup plus rapide.
Est-ce qu'on a répondu à votre question, Marianne ?
Oui, c'était parfait. Il est nécessaire d'avoir un avocat pour la partie de médiation familiale ?
Alors, pour la partie médiation familiale, vous n'avez pas l'obligation d'avoir un avocat. Vous pouvez aller voir un médiateur. Vous pouvez faire le choix d'être accompagné par un avocat dans le cadre de cette médiation.
D'accord, parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup.
Bon, merci à vous. Et puis, bonne route, parce qu'on entend que vous êtes sur la route.
Effectivement. Merci à vous.
À bientôt.
Bonne journée.
Et si, comme Marianne, vous avez des questions concernant votre séparation, votre divorce, voilà, vous pouvez les poser donc à notre avocate spécialiste du droit de la famille au sein du cabinet Majoli, Océane Gourceau. On précise d'ailleurs aussi, Océane, et c'est une des raisons pour laquelle je vous ai invitée. Alors, vous êtes médiatrice, vous êtes avocate et vous avez aussi une chaîne YouTube.
Oui, complètement. Chaîne YouTube et podcast. En fait, l'idée, c'est vraiment de vulgariser le droit de la famille, d'essayer d'apporter des clés aux personnes qui se séparent ou qui ont des difficultés familiales. Et puis aussi de déconstruire quelques légendes urbaines, des choses qu'on me dit quasiment toutes les semaines à mon cabinet et qui ne correspondent pas du tout à la réalité juridique. Donc, j'ai eu envie de donner quelques clés aux personnes.
Alors, on l'a dit, Océane, parmi, alors, c'est ce que vous appelez les légendes urbaines, et vous avez fait un podcast sur cette thématique. On se dit que les enfants, à partir de 13 ans, lorsqu'on est en garde alternée, ou même voilà, quand il y a un mode de garde qui a été choisi, il peut choisir, lui. Il peut dire, bah non, moi j'ai plus envie de rester avec mon père, je vais avec ma mère. Qu'est-ce qu'il en est, ça ?
Alors non, c'est vraiment une légende urbaine. Un enfant n'a pas le droit de choisir, quel que soit son âge, chez qui il va vivre. Que ce soit parce qu'il y a un mode de garde qui est déjà établi, ou que ce soit au moment de la séparation. En fait, on fait un petit melting pot de différents éléments, c'est-à-dire que oui, l'enfant qui est doté de discernement, donc il n'y a pas d'âge précis, mais on peut dire à partir de 10 ans, c'est-à-dire quand l'enfant est capable d'exprimer ce qu'il souhaite, il va pouvoir, s'il en fait la demande, être entendu par le juge. À partir du moment où il demande au juge à être entendu, c'est obligatoire, le juge lui accordera, le recevra pour l'entendre, en dehors de la présence de ses parents et avec un avocat. Mais ce n'est pas pour ça que l'enfant...
Et là encore, ça prend du temps, je reprends.
Et là encore, oui, ça prend du temps. Ouais. Mais ce n'est pas pour ça que l'enfant peut choisir, c'est-à-dire que la décision que prendra le juge, ce sera toujours dans l'intérêt de l'enfant. Ce que va vouloir l'enfant ne sera pas forcément dans son intérêt. On pense à des parents qui auraient par exemple des addictions. Si l'enfant souhaite aller vivre chez ce parent, le juge pourra considérer que ça n'est pas dans son intérêt. Donc le juge prendra compte des souhaits des enfants. Pour autant, et moi c'est ce que j'indique hein, quand j'accompagne des enfants dans le cadre de ces auditions, le juge ne fera pas forcément ce que l'enfant souhaite.
D'accord. Même chose, parce que je pense à l'intérêt de l'enfant, séparation, souvent là où ça peut coincer aussi, c'est sur les histoires de scolarité, de choix, d'école, enfin voilà. Comment ça se passe dans ces cas-là ? Qui décide ?
Alors, pour tout ce qui est la scolarité, il y a la notion de coparentalité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se sépare, on reste parents, et donc on doit prendre les décisions importantes ensemble. Les décisions concernant la scolarité peuvent être des décisions importantes. Bien entendu, on ne parle pas du fait de passer d'une classe à l'autre sans qu'il y ait de difficultés ou de passer d'un établissement à un établissement similaire. Pas de problème. L'un des parents peut agir seul parce qu'on va présumer de l'accord de l'autre. Mmh. À partir du moment où on prend des décisions importantes, une orientation, un changement de voie, passer de l'école publique à l'école privée, on est sur des décisions importantes et donc on va avoir l'obligation d'avoir la signature des deux parents. Et quand il y a un couac, ma première préconisation, c'est d'essayer de se parler avec l'aide d'un professionnel quand c'est nécessaire, toujours avec cette idée en tête que les délais sont longs pour pouvoir saisir la justice. On peut avoir la possibilité de saisir le juge en urgence, mais notamment à Nantes, on est tellement sinistré qu'il va être même difficile pour une inscription scolaire d'obtenir l'autorisation d'assigner en urgence.
Donc choisissons la médiation dans
donc,
ce cas-là.
Donc choisissons la discussion, choisissons de se mettre autour d'une table pour essayer de ne pas en faire pâtir les enfants.
Merci pour toutes ces infos. D'autres infos, alors il y a plein de conseils sur votre site internet. Majoli-avocat.fr. Majoli, ça s'écrit M-A-J-E-L-I. Et puis également, donc, votre podcast et votre chaîne YouTube. Donc, Mon Avocat, Ma Famille et moi. Merci à vous, Océane Gourceau, d'avoir été en direct dans le studio de France Bleu.